Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, Philippe Descola est un des grands anthropologues français. Professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, ce savant, comme on disait jadis, promeut une nouvelle vision de l'homme, de l'humain et de son environnement non humain. Nous ne sommes pas proches de la nature, mais dans la nature, dit-il, à l'appui de son expérience de vie et d'études auprès des Indiens Jibaros, des Achuars dans l'Amazonie. Il nous en a parlé, il a parlé de sa conception de l'anthropologie, de son œuvre dans son bureau du prestigieux Collège de France, donc au cœur de Paris des professeurs et des étudiants. Voici donc une nouvelle diffusion de ce numéro d'Idées, un magazine que vous pouvez retrouver podcasté sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre bureau au Collège de France. Collège de France qui n'est pas n'importe quelle institution, qui est une vénérable institution, qui est un peu intimidante, non? En tout cas pour nous.
Oh, elle est intimidante aussi pour les jeunes professeurs et même pour les professeurs qui ont blanchi sous le harnais comme moi, puisque j'en suis à ma 20e année. Je vais prochainement partir à la retraite et une chose qui, je crois, caractérise tous les professeurs, c'est qu'ils sont encore saisis par le trac avant de faire leur cours. Et c'est une institution extraordinaire en ce sens que elle permet de diffuser une connaissance de très haut niveau à un public très général qui ne suit pas des études classiques, oui, en somme, oui. Nous ne délivrons pas de diplôme. Et depuis quelques années, nos cours sont enregistrés et diffusés dans le monde entier, et c'est une très bonne chose parce que ça contribue au fond à la diffusion, en français évidemment, de la science qui se fait ici au Collège de France et en France.
Ce qui fait que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en ce moment même, en Afrique notamment, pourront aller sur le site et écouter, regarder vos interventions, vos leçons, Philippe Descola. Nous sommes d'autant plus ravis de venir vous voir dans votre bureau qu'il y a évidemment des livres, ça pour un professeur, un chercheur, ce n'est pas très original, mais il y a aussi des statuettes, et c'est là qu'on reconnaît l'anthropologue, et il y a notamment sur votre gauche une silhouette assez étrange. De quoi
s'agit-il ? Ah oui, alors c'est un masque d'une tribu du Brésil, c'est un maître des animaux. Vous le savez peut-être, mais je suis ethnologue, anthropologue et ethnographe, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière en allant vivre parmi des Amérindiens à la frontière de l'Équateur et du Pérou, en haute Amazonie. Et c'est là que j'ai découvert l'importance qu'avaient ces êtres qu'on appelle les maîtres du gibier, qui sont des esprits, qui traitent les animaux sauvages, le gibier, comme des animaux domestiques. C'est un peu les troupeaux, en quelque sorte, des esprits. Et il faut avoir de bons rapports avec ces entités si l'on veut bien chasser. Donc il y en a deux ici, il y en a un à ma gauche et un autre à ma droite.
Vous êtes encadré en quelque sorte.
Je suis encadré pour toujours me souvenir au fond de quelle est la source de la science que j'enseigne. Et cette source, elle naît dans des expériences tout à fait singulières d'un ethnographe, en l'occurrence de mon expérience d'ethnologue en Amazonie, et c'est ce qui nous amène à nous poser des questions souvent plus générales, à essayer de proposer des théories qui sont plus englobantes pour expliquer certains phénomènes de la vie sociale et culturelle, mais toujours au départ, il y a ce caractère concret des populations au sein desquelles nous vivons et qui, au fond, déclenchent la curiosité qui va nous animer pendant toute notre carrière scientifique.
Alors, on va bien sûr en reparler, Philippe Descola, parce que vous notez dans plusieurs de vos livres que l'un des intérêts de votre travail, c'est de partir du singulier à la théorie.
Je pense que c'est caractéristique du travail de l'ethnographe, qui commence donc par une immersion de longue durée dans une population différente de celle où il a été lui-même élevé, qui dans certains cas apprend une langue qui n'est pas une langue qu'on enseigne même aux langues zo, une langue difficile donc, parce qu'elle n'est pas enseignée, on doit l'apprendre par bribes et par morceaux, et qui au fond essaye de se couler dans le monde, dans les valeurs de la société au sein duquel il a choisi de s'établir. Et les ébranlements conceptuels, les interrogations qui naissent au contact d'une population dont les modes de vie et les modes de pensée sont très différents des siens, incitent l'ethnographe à se poser des questions, d'abord sur des évidences qui pour lui paraissent établies depuis longtemps dans sa propre culture, et donc il opère un retour critique vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde d'où il provient, et puis ça l'incite aussi à se poser des questions plus générales, et dans mon cas, ça m'a incité à m'interroger sur une des grandes distinctions que l'Occident moderne a proposé au monde, à savoir l'opposition entre d'un côté le monde de la culture et de l'autre le monde de la nature, puisque dans la société où je m'étais établi, je ne rencontrais pas du tout cette opposition. Et c'est au fond le moteur de tout ce qui a suscité mes recherches par la suite, et qui naît encore une fois d'un étonnement. C'est pour ça que l'ethnographie, au-delà de ce qu'elle peut apporter en matière de description de modes de pensée, de modes de vie différents des nôtres, joue un rôle important aussi parce que elle est le premier moteur du décentrement.
Alors on va évoquer votre parcours, Philippe Descola, au fil de quelques-uns des livres que vous avez écrits. Mais d'abord, il faut que les auditeurs sachent dans quelles circonstances vous avez choisi de travailler avec les Achuars en Amazonie, la frontière donc un peu floue entre l'Équateur et le Pérou. Je pose la question parce que dans cette émission, nous avons eu la chance d'inviter jusqu'ici des anthropologues comme Georges Balandier, que vous connaissez évidemment, le regretté Georges Balandier, Marc Auger, Michel Agier aussi, et un certain Maurice Godelier. Alors lui, il vous dit quelque chose.
Oui, bien sûr. J'étais élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Et philosophe, comme l'ont été beaucoup de mes collègues depuis au fil des années, des décennies, pas simplement en anthropologie d'ailleurs, mais en sciences sociales depuis Durkheim, c'est une tradition
quasiment.
C'est une tradition et en même temps c'est une façon de se déprendre de d'une certaine façon que la philosophie a d'envisager les problèmes. Qui est très lié à une histoire propre, qui est une histoire des concepts occidentaux, et qui incite des jeunes philosophes à vouloir aller regarder ailleurs pour voir comment se posent ailleurs des questions qui sont pour beaucoup ouvertes à toute l'humanité, mais qu'il est parfois difficile de formuler dans la terminologie, disons, classique de la philosophie. Donc j'étais là comme élève et je m'intéressais à l'anthropologie, j'avais lu Godelier, j'avais lu Lévi-Strauss, j'avais lu quelques anthropologues en général, et Godelier faisait un séminaire. Lui-même était ancien élève de cette école, qu'il avait quitté une douzaine d'années auparavant, et il faisait un séminaire sur... son premier livre, en fait, qui était « Rationalité et irrationalité en économie », qui était une lecture à la fois du Capital de Marx et une critique des catégories de l'économie politique, et qui se concluait sur quelque chose d'assez différent de ce qui se faisait dans les relectures de Marx, qui étaient très à la mode à l'époque, et qui était une analyse des formes économiques de production et d'échange dans les sociétés non industrielle, pré-marchande dans certains cas. Et ça m'avait beaucoup intéressé parce que ça m'avait incité à penser qu'on pouvait faire de l'anthropologie en utilisant certaines des catégories qu'on employait pour décrire les réalités dans notre monde, mais en étant attentif au fait que ces catégories, eh bien, elles peinaient à rendre compte complètement, au fond, d'autres réalités qui, en apparence, étaient aussi économiques, mais qui, en réalité, ne l'étaient pas. Et c'est Gaudely qui m'a dit, mais c'est très bien de faire de l'anthropologie, il faut faire du terrain, c'est possible, c'est quelque chose qu'on peut faire.
Alors, c'est lui qui vous a incité aussi à aller voir Claude Lévi-Strauss ?
Alors, non, le cheminement est plus compliqué. Il se trouve que, après un premier terrain au Mexique, j'ai, pour toutes sortes de raisons, décidé d'aller en Amazonie. Et à l'époque, Claude Lévi-Strauss était la seule personnalité scientifique qui était en mesure de diriger des thèses sur l'Amazonie. En même temps, c'était évidemment ce très grand personnage que nous connaissons. Et donc, j'étais tenté par, évidemment, le fait d'avoir d'abord quelqu'un de compétent sur le monde amazonien. Au fond, c'est en lisant Triste Tropique, quand j'étais adolescent, que je m'étais dit, ça, c'est vraiment un métier extraordinaire. Et donc, cette première lecture m'avait fait découvrir le monde amazonien, ou en tout cas le monde des basses terres sud-américaines telles que Lévi-Strauss le décrivait dans Triste Tropique. Et donc j'avais un tropisme vers l'Amérique du Sud, et Lévi-Strauss me paraissait la voie normale, en somme, pour essayer de donner une expression, en fait, à cette espèce de vocation qui était en train de se frayer un chemin en moi. C'est pour ça que j'étais le voir.
Alors, vous racontez quelque part, je ne sais plus dans quel livre, les circonstances dans lesquelles cette rencontre s'est effectuée. Vous étiez intimidé, mal installé, il me semble, dans son bureau. Vous le racontez, je ne sais plus, dans un livre d'entretien. Et finalement, il vous a laissé parler et vous l'avez séduit, visiblement.
Alors, je ne sais pas si je l'ai séduit. J'étais assis dans ce fauteuil qui est derrière vous.
Un fauteuil très bas,
marron. Et lui était assis sur une chaise en bois très haute et dominant le fauteuil.
Donc il y avait un déséquilibre.
Le fauteuil était en bien plus mauvais état qu'il ne l'est maintenant, il était un peu défoncé. Et donc j'étais enfoncé, en somme, dans ce fauteuil, et Lévi-Strauss me dominait comme ça, me regardant d'un œil d'aigle, tandis que j'exposais ce que je souhaitais faire en Amazonie. J'étais absolument terrorisé, bien sûr. Parce que, comme je le dis quelque part, aller voir Lévi-Strauss, c'était comme d'aller voir Kant à Königsberg. Enfin, c'était vraiment une des grandes figures de la pensée, et pas simplement de l'ethnologie, au XXe siècle. Et il m'a écouté avec beaucoup d'affabilité, à ma grande surprise. Je pensais que je le dérangeais dans des tâches très importantes. Et il a accepté de diriger ma thèse.
Alors, thèse que vous avez effectuée, vous l'avez publiée d'ailleurs en partie, non ?
Oui, je l'ai publiée sous le titre La nature domestique. Oui.
Alors, vous dites aussi quelque part que ce n'était qu'un fragment d'un projet plus vaste.
Oui.
Quel était-il, ce projet ?
Oh, c'était
un peu mégalomane,
peut-être ? Un projet mégalomane, oui. C'est-à-dire que j'étais très intéressé à l'époque par une conception de l'économie thermodynamique de Georgescu Röntgen, qui était un savant dont on ne parle plus tellement maintenant, mais qui m'avait incité à tenter de décrire le monde Atchouar en analysant les flux d'informations, d'énergie qui circulaient entre les humains et les non-humains, et entre les humains. Et donc j'avais un plan mégalomane, en ce sens que je voulais d'abord décrire la circulation des flux entre humains, et ensuite la circulation des flux entre humains et non-humains. Et finalement, je n'ai fait qu'une partie de cela, et la nature domestique, c'est l'étude de la façon dont cette tribu, les Atchouars, entretient des liens avec les non-humains, avec son environnement, avec les plantes, avec les animaux, avec les esprits, etc. À la fois du point de vue précisément des flux d'énergie, c'est un travail d'ethno-écologie, si vous voulez, mais aussi du point de vue de ce que Gaudely a appelé l'idéal, c'est-à-dire du point de vue de la façon dont les Atchouars se représentent les liens qu'ils entretiennent avec ce que j'appelais encore les êtres de la nature à l'époque. Et puis la deuxième partie, qui était un énorme travail d'analyse, au fond, de ce que traditionnellement on aurait appelé la structure sociale, finalement je l'ai abandonnée, même si j'ai au fond tous les matériaux pour le faire.
Ah.
Alors peut-être que si la Providence me prête vie, je le ferai. Mais parce que j'ai été entraîné au fond par cet ébranlement que j'évoquais tout à l'heure, lorsque, à l'occasion de cette étude des rapports entre humains et non-humains, je me suis aperçu que les Hatchoirs considéraient les plantes et les animaux comme des personnes, et que, au fond, ils interagissaient avec eux comme avec des partenaires sociaux, et que toutes les idées que j'avais sur la nature et la culture, sur le fait qu'une société s'adapte à la nature, qu'elle projette des conceptions sur cette nature, qui sont des conceptions pour l'essentiel issues de ces conceptions sociales, position à la Durkheim si vous voulez, je me suis aperçu donc que toutes ces idées que je me faisais étaient fausses, hein, et qu'il fallait reprendre complètement, pas simplement à propos des Hatchoirs, mais d'une manière plus large, la conceptualisation des rapports entre humains et non-humains. Et c'est ça qui a déclenché, en fait, cette enquête que je poursuis encore.
Et ce n'est pas donc un hasard que vous soyez allé en Amazonie, dans cette région du monde, et non pas en Afrique, parce que vous doutiez, vous saviez qu'il y avait cette particularité.
Alors, ce qui m'avait frappé dans la lecture que j'avais faite, à commencer par les premiers chroniqueurs, hein, Jean de Léry, enfin les premiers voyageurs de la Renaissance qui débarquent sur le littoral du Brésil, mettent tous l'accent, et ça c'est une constante depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe, sur le fait que les Amérindiens des basses terres, disons les Indiens d'Amazonie pour parler au sens large, sont des gens qui sont à peine distingués de la nature. Ce sont des Buffon écrit quelque part, ce sont des automates impuissants. Ce sont des animaux de second rang, même dit-il. Donc ils étaient en fait suradaptés à leur environnement de telle façon que c'était des peuples naturels, comme on l'a dit, une expression qu'on a employée par la suite, hein, au XIXe siècle. Et en même temps, la plupart des observateurs soulignaient que ces gens-là n'avaient vraiment pas, au fond, une société, puisqu'ils étaient sans foi, sans loi, sans roi, c'est-à-dire sans aucune des institutions qu'on avait l'habitude de discerner évidemment en Europe, mais même dans les dites hautes civilisations des Andes. Il n'y avait pas de clergé, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'impôts, il n'y avait pas de temples, etc., etc. Donc des sociétés sans aucune des institutions habituelles que l'on associe avec l'idée même de société. Et ce qui m'avait paru intéressant dans cette constance, au fond, c'est la suggestion de ce que, au fond, la société, elle résidait peut-être ailleurs que dans ce que nous avons l'habitude de voir comme étant des institutions sociales. Elle résidait peut-être dans une plus grande amplitude de la conception de l'humanité, étendue bien au-delà de l'espèce humaine. Et que la société, c'était la société, au fond, englobant une partie des non-humains. Donc c'était une vague idée
une intuition.
Une intuition. Et elle a été, évidemment, largement confirmée par mon terrain. Et en Afrique, alors, ce que je connaissais de l'Afrique à l'époque, c'était surtout les travaux sur l'organisation sociale, sur les systèmes de classe d'âge, sur les sociétés segmentaires, sur les groupes lignagés, etc. Et donc, ce qui était, sur les royautés aussi, sur des royautés africaines. Et donc, ce qui venait au premier plan, c'était au fond des systèmes d'institutions très complexes, mais qui ne posaient pas vraiment ce problème-là. C'est avec des oppositions qui semblaient recouper celles que l'on faisait en Europe, entre le village et la brousse, le sauvage et le domestique, le monde domestique, la maison et la forêt, etc. etc.
Ouais.
Et voilà, donc c'est pour ça que l'Amazonie avait un côté énigmatique que n'avait pas, en tout cas pas à la lecture, les sociétés africaines sur lesquelles j'avais lu.
Nuke,
Philippe Descola, sans entrer dans le détail de dans sa complexité, il faut quand même s'arrêter sur Claude Lévi-Strauss, sur l'époque et sur les idées qui circulaient à ce moment-là, et revenir le plus simplement possible sur cette notion de structuralisme et d'anthropologie structurale. Alors, peut-on en donner une définition, parce qu'il y a tout, un petit peu tout dans ce mot structuralisme, et est-ce que cette notion a compté beaucoup dans votre travail, parce que vous l'avez adapté, mais vous en êtes aussi détaché?
Alors, je pense que la façon peut-être la plus simple de définir ce qu'est le structuralisme, c'est de dire que c'est une méthode qui met l'accent sur les différences plutôt que sur les ressemblances. Et comme on le sait, elle est inspirée par la phonologie structurale, c'est-à-dire par cette branche de la linguistique qui s'intéresse à la production et à l'identification des phonèmes. Et qu'est-ce que c'est que la phonologie structurale, ou d'une manière générale la linguistique structurale? C'est l'idée que soit un son, soit un phonème, soit même un mot n'ont de sens que contrasté avec un autre phonème, un autre son, un autre mot. Et au fond, l'anthropologie structurale exploite cette idée et part du principe qu'il n'y a pas de phénomène en soi, il n'y a de phénomène significatif que des phénomènes qui sont replacés à l'intérieur des contrastes qu'ils entretiennent avec d'autres phénomènes à l'intérieur d'un groupe. Alors tout le problème est de la nature du groupe. Lévi-Strauss appelait ça un groupe de transformation, c'est-à-dire c'est un groupe à l'intérieur duquel on peut suivre des variations, des transformations, des systèmes de contrastes, et de telle façon que l'ensemble des phénomènes qui sont inclus dans ce groupe de transformation, ça peut être des systèmes de parenté par exemple, des systèmes d'alliance, de mariage, eh bien font sens parce que ils justement mettent en évidence des différences les uns avec les autres. Ça, c'est quelque chose de central. C'est une méthode qui, pour moi, est absolument essentielle et que je continue à employer. S'il y a des différences dans ce que j'ai fait par rapport à ce que Lévi-Strauss proposait, c'est que ces contrastes, notamment dans l'étude des mythes, il avait tendance à les subsumer, à les regrouper sous des catégories, des macro-catégories, des grands ensembles qu'il appelait la nature et la culture. Or, il m'a semblé, suite à ce travail chez Achoar, que ces deux notions n'avaient guère de sens, non seulement chez les Achoar, mais partout ailleurs. Partout ailleurs, sauf dans l'Occident moderne, où ces idées, où cette opposition, ça, c'est progressivement constitué à travers une histoire qu'on connaît bien, qui commence avec la Grèce, avec la notion de physis en Grèce, la notion d'une réalité, la nature au sens où ce ne sont pas les dieux qui sont responsables des phénomènes, des régularités, mais c'est un principe autonome en quelque sorte qui échappe à la volonté tant humaine que divine. Eh bien, il m'avait semblé que cette opposition était tellement historiquement contingente, si elle était propre à une histoire de l'Europe et une histoire de l'Occident, disons, et qu'elle ne s'était stabilisée que relativement tard, à ce moment-là, il n'y avait pas de raison de l'employer pour mettre en évidence des contrastes ailleurs que dans le monde européen. C'est comme ça qu'est née, au fond, l'idée d'une anthropologie structurale, si on peut très bien l'appeler comme ça, des continuités, des discontinuités que les humains perçoivent entre eux et les non-humains.
Et c'est ce qui était au cœur de votre livre, dont on va parler dans un instant, Par-delà nature et culture, votre maître livre. Mais je voudrais faire référence à un autre livre, parce que vous avez d'abord fait votre thèse, ensuite vous avez fait votre récit, j'allais dire, pas sur commande, mais presque, dans la collection Terre humaine, récit de votre séjour, entre guillemets, avec les Achoars et les Indiens Jivaro, dans cette collection Terre humaine, sous le titre, ce récit, Les Lances du Crépuscule. Et là, vous dites de façon très drôle que vous avez fait ce livre pour votre tante ou votre grande-tante, qui était une femme très cultivée, qui n'était pas du tout spécialiste. Et je pense que votre tante a dû être contente parce que c'est le cas. Mais c'est à la fois un récit d'aventure, de réflexion, de voyage, d'ethnologue aussi. Mais là, vous avez fait de l'ethnographie, en quelque sorte, après avoir fait de l'ethnologie, non ?
Oui, si on veut.
On peut rappeler le cheminement classique.
Oui, alors l'ethnographie, c'est le stade initial, c'est-à-dire on s'installe dans une société dont on partage la vie, dont on apprend la langue, dont on essaye de vivre de l'intérieur les coutumes et les valeurs. Et le résultat, c'est une description. Hein, donc ce sont des intuitions, des observations.
Des doutes.
Ils sont très importants à mentionner. Qui débouchent sur, au fond, non pas une description complète, mais dans un deuxième temps, sur une analyse des structures qui permettent, sous-jacentes au fond à cette réalité sociale qu'on a observée, qui permettent de la comprendre. Et ça, c'est l'ethnologie, c'est-à-dire c'est un deuxième temps, ça va au-delà de la description, c'est un peu comparatif, c'est-à-dire qu'au fond, on resitue l'objet qu'on a étudié à l'intérieur d'un champ de phénomènes, et dans mon cas, c'était les sociétés amazoniennes, c'était le rapport à la nature dans le monde amazonien, et on essaye de montrer comment, au fond, la réalité qu'on a observée peut être définie par quelques traits qu'on retrouve ailleurs. Donc c'est un premier effort de synthèse. Et ça, je l'ai fait dans ma thèse, parce que c'est ce qui est attendu dans une thèse, c'est-à-dire qu'elle débouche, au fond, sur des hypothèses et sur des hypothèses de travail et sur des conséquences théoriques qui permettent d'aller plus loin. Mais en même temps, j'ai été un peu frustré parce que dans ce travail, j'ai très peu parlé de mon expérience ethnographique.
Qui était ô combien importante.
Et qui est très importante parce que à l'époque, et c'est encore un peu le cas maintenant, beaucoup moins, on n'était pas censé trop parler de soi, au fond, dans des thèses ou dans des monographies ethnographiques. Et donc j'ai accepté ce qui était, vous avez dit tout à l'heure, un livre de commande. Oui, c'est un livre de commande.
16 ans après votre séjour.
16 ans après mon séjour, parce que j'avais expliqué à Jean Mallory, le directeur de la collection, que je voulais d'abord faire ma thèse et que c'était deux registres différents. Et donc, quand j'ai fini ma thèse, je me suis attelé à cet ouvrage parce qu'il y avait toute une partie de cette expérience très personnelle, au fond, qui n'avait pas trouvé de débouché dans la monographie ethnologique.
Et d'ailleurs, vous dites quelque part dans ce livre, Les Lances du Crépuscule, sorti en 1993, que ce livre s'apparente aux œuvres romanesques.
Alors, il s'apparente aux œuvres romanesques pour une raison bien simple, c'est que dans la description des événements que je fais, et dans la description des événements qu'on fait assez souvent, d'ailleurs dans des monographies ethnographiques, on sélectionne des épisodes. Et on sélectionne des épisodes qui paraissent plus significatifs. Donc rien n'est inventé, ce n'est pas de la fiction, mais c'est romanesque parce que j'utilise les artifices de la littérature, à savoir des artifices de composition en particulier. Et l'un des artifices de composition, ça a été noté à plusieurs reprises, et c'est tout à fait délibéré, c'est un peu comme dans un roman policier, c'est-à-dire que le récit commence par un assassinat, et au fond, c'est tout à fait à la fin du livre que je comprends qui a tué la personne. Les tueurs sont des guerriers, et la vendetta était encore très commune à l'époque où j'y résidais. Et on ne découvre que progressivement, après toute une série de péripéties, qui est en fait responsable de cette... Et voilà, donc j'ai utilisé ce genre d'artifice romanesque, parce que au fond, c'est ce que j'ai vécu moi-même dans le cours de cette extraordinaire expérience ethnographique.
Je crois que ça peut donner envie à beaucoup de jeunes de se lancer dans le métier de l'ethnologie.
Mais on me l'a dit. Oui. On me l'a dit. Oui.
En lisant les pages.
Il y a plusieurs jeunes ethnologues qui m'ont dit qu'ils étaient devenus ethnologues en lisant ce livre. Et ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit que c'était une récompense pour l'avoir écrit.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, une bonne dizaine d'années plus tard, en 2005 exactement, est sorti Par-delà nature et culture, qui est le livre dont on parle toujours quand on parle de votre travail, Philippe Descola. J'en ai extrait deux phrases qui, à mon avis, donnent le sens de ce livre. La manière dont l'Occident moderne se représente la nature est la chose du monde la moins bien partagée. Déjà, on voit l'angle qui est le vôtre. Et une question que vous posez fort ironiquement d'ailleurs, est-il encore plausible de ranger parmi les universaux une opposition entre la nature et la culture dont l'Antiquité ne remonte guère au-delà du siècle ? Tout est dit là, c'est le ton que vous donnez à ce livre.
Oui, tout à fait. Lorsque j'ai découvert sur le terrain que cette opposition entre nature et culture n'avait guère de sens pour les Achuar, j'ai commencé une enquête. J'ai eu la chance d'être recruté comme maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, et donc j'ai fait un séminaire de recherche que je n'ai jamais interrompu depuis, où j'ai décidé de m'intéresser à cette question, de savoir au fond quelles étaient les formes de conceptualisation des rapports aux non-humains qui existaient un peu partout. Et donc j'ai procédé de proche en proche, d'abord en Amazonie, et puis ensuite en remontant vers le nord, parmi les populations amérindiennes d'Amérique du Nord, etc. Et je me suis aperçu que ce que j'avais observé chez les Achuar était en fait assez commun. Et c'est là que, dans un coup de force un peu fou, j'ai décidé de me réapproprier le concept tombé dans le discrédit d'animisme. L'animisme, c'est l'idée que la plupart des non-humains ont une intériorité, une subjectivité, ce sont des sujets sociaux, ce sont des personnes, mais qui se distinguent par leur corps, par les aptitudes physiques qu'ils déploient, les uns des autres comme classe, si vous voulez, comme espèce. Mm-hmm. Et ça, c'était évidemment exactement l'inverse du naturalisme, c'était l'inverse de l'approche au sein de laquelle je m'étais moi-même formé. Et cette enquête, je l'ai donc continuée, comme le font les anthropologues, c'est-à-dire, cette fois-ci, non plus en faisant du terrain, parce que je ne peux pas faire du terrain dans toutes les sociétés de la planète. Ouais. Et donc, je me suis servi du travail ethnographique des autres, et c'est là que je me suis fixé comme objectif d'essayer de mettre en évidence les différentes formes de continuité, de discontinuité.
Alors,
entre humains et non humains.
Justement, au cœur de votre livre, de ce livre, « Par-delà nature et culture », Philippe Descola, il y a cette définition de quatre ontologies dont j'aimerais que vous nous parliez, évidemment. Il faut rappeler que l'ontologie, c'est en quelque sorte la science de l'être, en tant qu'être, comme disent les philosophes. Vous vous établissez et vous développez, évidemment, au fil des chapitres, ces quatre ontologies. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour
Alors,
nos auditeurs ?
Si vous voulez, l'ontologie, c'est, dans le cas présent, on peut simplifier en disant que c'est le mobilier du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde pour vous, pour moi, pour un Achuar, pour un Wolof, pour un Thaï, pour un Mongol? Et ils ne sont pas composés des mêmes éléments. Les éléments, en plus, se sont reliés les uns aux autres de façon différente. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, on appelait ça, jadis, des conceptions du monde, ou des visions du monde.
Oui.
Et moi, j'ai refusé cette approche, justement, c'est pour ça que je parle d'ontologie, parce que ça supposerait qu'il y a un monde déjà donné, avec toutes ses caractéristiques, et que chaque culture, chaque groupe social, chaque collectif va en donner une vision partielle.
Ça aurait été une déclinaison, en quelque sorte.
Une déclinaison dont seuls, d'ailleurs, seraient exemptés les modernes, les occidentaux, qui, grâce à la science, pourraient en donner la description la plus complète possible. Il m'a semblé que c'était une façon très réductrice de voir les choses et qu'il était plus intéressant de concevoir ce phénomène d'objectivation des propriétés du monde comme différentes techniques de composition de monde qui se rejoignent, qui se recoupent, qui se différencient selon les circonstances. Et c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser cette notion d'ontologie. Seulement, évidemment, ces ontologies, elles sont fondées sur des principes. Le principe, j'en ai donné un tout à l'heure dans la définition de l'animisme, c'est-à-dire l'idée qu'on peut établir un lien avec un non-humain parce que on présume dans ce non-humain d'une intériorité analogue à la sienne quand on est un humain, mais qu'en même temps, ce non-humain a des caractéristiques physiques qui le différencient complètement de moi parce que
le monde dans lequel il vit est différent du mien, du fait que s'il a des branchies, il vit sous l'eau, donc c'est pas moi comme humain, c'est pas mon monde, ou bien s'il a des ailes, il vit dans l'air, ou si c'est une plante, c'est un rhizome, ou c'est une plante racinaire, ou c'est une mousse. Et donc tous ces êtres, au fond, ont des caractéristiques différentes. Et ça, c'est l'animisme, et ça m'avait frappé, parce qu'évidemment, c'est l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, du naturalisme, de notre propre façon de voir les choses, dans lesquelles seuls les humains ont une intériorité, faculté réflexive, le cogito cartésien, la capacité de se tourner vers soi-même.
L'homme au centre de tout.
L'homme au centre de tout, l'homme aussi comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire comme un agent connaissant des lois du monde et qui peut agir sur ce monde par la technique. Donc un système très différent, mais cet agent, cet humain, il ne se distingue pas du point de vue physique des autres objets du monde parce que il est lui aussi dépendant de la chimie du carbone, qu'il est aussi soumis à la gravitation et aux lois de la biologie. Donc ça, c'était deux formules hein, antithétiques qui sont le point de départ. Et puis il y en a deux autres que j'ai essayé de mettre en évidence à partir de l'ethnographie. L'une, le totémisme. Alors le totémisme, on en parle depuis très longtemps, au fond. C'est un des fantasmes, en tout cas une des matières à réflexion des savants depuis la fin du 19e siècle.
C'est-à-dire l'objet comme représentation d'une communauté?
Alors non, c'est plus compliqué que ça.
Bien
le
sûr.
Totémisme, c'est il a été mangé à toutes les sauces, si je puis dire. Mais ce qui m'avait frappé quand on revient aux descriptions ethnographiques de l'Australie, c'est que un groupe totémique, c'est quoi? C'est une classe nommée qui comporte des humains et des non-humains qui partagent des qualités physiques et morales qui sont issues d'un prototype. Voilà, c'est très facile comme définition. Ce prototype, il a laissé des semences d'individuation dans le monde qui, génération après génération, vont s'infuser dans des humains et des non-humains de la classe totémique pour qu'ils continuent à présenter les mêmes caractéristiques. Autrement dit, on a là un système dans lequel les ressemblances entre humains et non-humains ne sont plus des ressemblances de forme, mais de qualités plus abstraites, à la fois morales et comportementales, disons, et physiques. Ils sont plutôt raides ou plutôt anguleux, plutôt sombres ou plutôt clairs, des choses comme ça, et qui, donc, regroupent des continuités entre humains et non-humains à l'intérieur de blocs discontinus, qui sont chaque classe totémique d'humains de non-humains, qui se différencie des autres classes totémiques. Donc c'est pas du tout, comme on le pensait autrefois, une question d'ancestralité. Hein, les tels clans descendent de tel animal. Ça n'est pas non plus, comme Lévi-Strauss l'avait postulé dans le totémisme aujourd'hui, une correspondance entre des discontinuités naturelles et des discontinuités sociales. C'est une ontologie tout à fait singulière, qui a été fort bien décrite pour l'Australie, mais dont on trouve des traces ailleurs, et qui, donc, constitue une troisième formule dans ces champs de discontinuité, de continuité entre humains et non-humains. Puis la dernière...
La quatrième, oui.
La quatrième, c'est ce que j'appelle l'analogisme, et le terme, je l'ai choisi parce que dans ce dispositif, le raisonnement analogique joue un rôle important. C'est l'idée que le monde est constitué d'une immense quantité de singularités fragmentées, feuilletées, et qui constitue au fond une sorte de grand bazar à l'intérieur duquel, pour se repérer, il faut précisément trouver des correspondances entre tous ces éléments divers. Et donc... tel jour de la semaine va correspondre à telle constellation, telle couleur, à telle fonction sociale, etc. Et de cette façon-là, par les correspondances, on va pouvoir réunir dans des réseaux continus un très grand nombre de choses disparates. Ça, c'est la Chine, c'est une partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est les mondes andins ou des plateaux du Mexique, etc. Et c'est notre monde à nous jusqu'à la Renaissance. Michel Foucault, dans Les mots et les choses, décrit ce dispositif-là pour la pensée de la Renaissance. Donc quatre façons de construire des mondes, de composer des mondes avec des principes différents. Ce sont des modèles, hein, ce ne sont pas des descriptions de réalité empirique, mais qui permettent de mettre un peu de donner un peu de sens au fond à la diversité des façons d'être présent au monde.
Alors cette interprétation a été reçue dans le monde qui est le vôtre, de l'anthropologie, le monde scientifique. Comment a-t-il été reçu ? On verra dans un instant que vous voulez un petit peu modifier le sens de l'anthropologie, des travaux. Comment cette thèse, cette vision a-t-elle été reçue par vos pairs ?
Alors c'est très variable, ça dépend aussi des générations, avec plus de... d'enthousiasme chez les plus jeunes que chez les plus âgés, que les gens de ma génération, pour dire le mot.
Oui, parce que c'est une révolution intellectuelle que vous préconisez, sans employer de grands mots quand même, dans cette façon de...
Alors, ça c'est pas à moi d'en juger, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que au fond, c'est les possibilités conceptuelles qu'offre ce modèle ont été exploitées par des gens qui étaient des spécialistes de tous ces dispositifs que j'évoquais sans en être un spécialiste. Donc par des sinologues pour la Chine, ils ont trouvé ça intéressant. Par des médiévistes pour l'analogisme, hein, dans les deux cas, où finalement la description du monde que ce modèle permet leur paraissait correspondre assez bien à la période dont ils étaient des experts, des spécialistes. Ouais. Et en fait, c'est ça la fécondité qui, pour moi, est la plus grande de cette tentative, c'est de voir des spécialistes à la fois s'emparer de ces outils conceptuels, éventuellement proposer d'autres combinaisons que celles que j'ai découvertes, et d'une façon générale, au fond, vous disiez tout à l'heure, ou à l'instant, qu'il y a une volonté de révolution conceptuelle. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de déseurocentrer, si on peut dire, les concepts que nous utilisons. Tous les concepts que les sciences sociales emploient sont des héritages de la philosophie des Lumières, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que c'était à cette époque que l'Europe, dans sa trajectoire historique, a été perçue de façon réflexive, avec de la façon la plus systématique, par une cohorte de grands esprits. Mais ces concepts, qui sont adéquats à la description des réalités européennes, ne le sont pas à la description de réalités non européennes.
Ça va intéresser nos auditeurs en particulier.
Alors, je pense par exemple que le concept de société n'a guère de sens pour décrire ce que maintenant, moi, j'appelle des collectifs. Parce que dans les systèmes animistes, en Amazonie par exemple, ou en Sibérie, les collectifs, ce sont des collectifs soit humains, soit non humains, c'est-à-dire ce sont des ensembles dans lesquels, au fond, les espèces, si vous voulez, sont vues comme des sociétés. Alors pourquoi employer le mot de société ? Si c'est pour importer, si vous voulez, clandestinement un concept européen, je préfère parler de collectif qui ne définit pas véritablement la composition, ontologiquement la composition de ce qui est agrégé. Donc c'est un exemple, mais je pense que tout notre vocabulaire est contaminé par une tradition eurocentrée et doit être réformé.
En tout cas, votre travail a donné lieu à un colloque qui s'est tenu ici même en 2017 et qui est publié aux éditions d'Ile Jacob sous le titre « Les natures », le pluriel est important, en question, Philippe Descola. Et dans votre intervention qui est publiée, il s'agit d'un livre collectif avec les interventions des différents participants, bien entendu, vous dites « il faudrait créer en quelque sorte une science générale des êtres et des relations, une science encore à venir et à laquelle contribueraient autant l'anthropologie et la philosophie que l'éthologie, la sociologie, la psychologie, l'écologie, la cybernétique et les sciences historiques. » C'est une façon de voir globale, en plus.
Absolument. Je crois que la dissociation entre les sciences de la nature et les sciences de la culture, qui est une séparation qui est assez tardive, puisqu'on la doit sur le plan épistémologique à Heinrich Rickert à la fin du XIXe siècle, est dommageable à la compréhension, à l'intelligibilité du monde. Et qu'une science des relations, par exemple, c'est une science qui non seulement traiterait les relations entre humains, mais les relations entre non-humains, et les relations entre humains et non-humains, etc. Je suis inspiré en la matière par un très grand savant qui était Gregory Bateson, qui a commencé sa carrière comme ethnologue et ensuite qui est devenu éthologue, psychologue, cybernéticien, à une époque où ces passages étaient possibles. C'est de plus en plus difficile maintenant. Donc je milite, au fond, pour une plus grande souplesse et surtout pour que les sciences se définissent à partir des objets et non pas à partir des méthodes, ou moins à partir des méthodes et plus à partir des objets qui permettraient de regrouper, au fond, des efforts dans différents champs scientifiques pour traiter un même objet.
Et vous y parvenez parce que là, on sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les sciences sont très cloisonnées.
De plus en plus, et c'est un... Alors, j'espère que c'est pas un vœu pieux, mais bon, il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à militer pour ça.
Philippe Descola, est-ce que les hachoirs vous accompagnent encore ? Vous avez de leurs nouvelles ?
Oui, bien sûr, j'y étais il y a quelques mois, et dans une circonstance tout à fait intéressante, puisqu'il m'avait invité pour discuter de mes travaux. Puisque maintenant, là, on est à trois générations après les premiers que j'ai connus.
Ah, je rappelle que vous avez été là-bas entre 1976 et 1979.
Voilà. Malheureusement, la plupart des gens, notamment des hommes que j'ai connus, sont morts. Et la durée de vie est inférieure chez les Hachoirs à ce qu'elle est dans le monde européen, en tout cas. En revanche, les petits-enfants de ces gens-là, pour certains maintenant, ont fait des études secondaires, voire supérieures, ont lu mes travaux qui ont été traduits en espagnol, et donc souhaitaient discuter avec moi de ces travaux. Et donc c'était une expérience absolument passionnante de conversation, d'égal à égal, entre observateurs et observés, qui permet de surmonter en fait la dissymétrie initiale qu'il y a entre un ethnographe qui arrive et qui est au fond le descripteur et le producteur de savoir à propos d'une culture. Là, c'est beaucoup
c'est
plus
exceptionnel en fait. Ça arrive rarement.
Ça commence à se produire maintenant, ouais. Étant donné précisément les circonstances nouvelles qui font que beaucoup de ces populations sont éduquées dans les sciences occidentales. Et au fond, mon objectif, l'objectif que j'aimerais poursuivre, c'est d'arriver à ce que des Hachoirs deviennent des ethnologues, et pas simplement des ethnologues de leur propre culture, mais des ethnologues de la nôtre, par exemple.
Qui viendraient à Paris, par exemple.
Par exemple, ouais. Oui. Et ça, c'est pas hors de portée.
Merci, Philippe Descola. Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire, je le rappelle, de la chaire Anthropologie de la Nature. Vous qui nous écoutez avec fidélité, sachez que vous pouvez retrouver les travaux et les cours de Philippe Descola sur le site du Collège de France. C'est gratuit et passionnant. C'est la fin de ce numéro d'idées, réalisé évidemment par Vanessa Rovansky, prise de son Marc Fichet. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour le début d'une nouvelle saison d'idées. Et pour commencer celle-ci, nous nous intéresserons à la lenteur. Il est urgent d'être lent. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.